Bonjour, c'est Zoé de Louis. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai la chance de travailler pour Louis Média et que vous entendez ma voix sur vos podcasts préférés. Travailler pour quelque chose qui a du sens pour moi, c'est essentiel à mon épanouissement au quotidien. Et vous, comment se passe votre relation au travail? C'est plutôt épanouissant et enthousiasmant ou plutôt boule au ventre et démotivation? Si vous êtes dans le deuxième cas et que vous comptez chaque semaine le nombre de jours qui vous séparent du week-end ou des prochaines vacances, je vous recommande plus que jamais le parcours Chance, partenaire d'émotion. Chance est une communauté d'entraide professionnelle pour aider chacun et chacune à trouver sa place dans le monde du travail. La communauté Chance a une méthode unique qui a fait ses preuves. La première étape, c'est celle du bilan de compétences. En 3 mois seulement, vous allez pouvoir redéfinir vos objectifs pro et renouer avec ce qui vous anime vraiment, avec l'aide d'un coach professionnel qui vous sera dédié. La deuxième étape, c'est celle du passage à l'action. Une fois votre projet défini, toute la communauté Chance sera à vos côtés pour donner vie à votre projet. Un collectif hyper engagé, prêt à vous épauler et à vous ouvrir son réseau. Si ce message résonne en vous, je vous invite à vous rendre directement sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou plus dans votre vie pro. Bonne écoute! Bonjour, c'est Zoé de Louis. Dans Émotion, on aime aborder tous les sujets qui vous touchent, dont un qui revient souvent est la confiance en soi. Saviez-vous que l'acné arrive en tête des complexes physiques chez les femmes comme chez les hommes? Et l'acné à l'âge adulte peut saper toute confiance en soi. Si vous êtes dans ce cas, je voudrais vous parler du sérum acide salicylique anti-imperfection de Caudalie, notre sponsor en ce moment. Ce sérum de la gamme Vinopure, c'est la solution naturelle des peaux à tendance acnéique qui améliore la qualité de votre peau avec 2 fois moins de boutons dès une semaine. Le sérum combine un trio d'actifs puissants, naturellement efficaces pour lutter contre les imperfections. Acide salicylique, niacinamide et polyphénol. Retrouvez une belle peau pour vous lancer en toute confiance dans tous vos prochains projets. Merci à Caudalie pour leur soutien et bonne écoute.
Louis.
Est-ce que je suis différent, disons, dans la vie, on va dire, de tous les jours et dans un lit? J'espère que je suis moins timide au lit, en tout cas. En tout cas, un peu plus expressif.
Je pense que je suis une personne qui est beaucoup dans le contrôle et qui aime justement contrôler les choses. Et que du coup, ce trait de caractère en fait que j'ai dans ma vie est le même qu'au lit.
Je fais 1m90 pour 100 kg, donc je pense que si je le raconte pas, on va pas forcément se dire que je me suis déjà fait attacher à un pilori et fouetter, tu vois.
Pour savoir si on est la même personne au lit et dans la vie, j'ai rencontré Étienne, Baptiste et Léni. En les écoutant, je me demande pourquoi on a tellement l'impression qu'on ne peut pas à la fois être timide, réservé, ou juste une personne calme, et aimer le cul. Et pareil, pourquoi quand je regarde des films comme American Pie ou d'autres comédies un peu grivoises, les filles qui aiment le sexe sont toujours des folles dingos? Ça m'a toujours intriguée. Pourquoi on a tendance à mettre les gens et leurs pratiques sexuelles dans des cases? Comme si nos goûts au lit nous définissaient en tant que personnes.
Émotion. C'est important de faire la différence entre une émotion et un sentiment.
Émotion !
L'espoir, c'est quelque chose qui se fait à plusieurs, qui se vit à plusieurs.
Oh, émotion,
émotion, émotion.
J'apprécie particulièrement les moments où je vois que je fais un peu rigoler.
Émotion.
Enfin, j'ai l'impression que je compte.
Émotion.
Quand je suis triste, je suis très triste. Quand je suis en colère, je suis très en colère. Mais quand je suis heureuse, je suis aussi très heureuse.
Émotion,
émotion,
émotion.
Est-ce que nos pratiques sexuelles nous définissent? Le site de billetterie TickPick a interrogé plus de 1000 personnes actives sexuellement sur leurs préférences au lit, mais aussi sur leurs goûts musicaux. Résultat, 36,9% des adeptes de country pratiqueraient le sexe anal. Avouez, vous êtes en train de changer votre vision des concerts de country, qui vous ont toujours paru un peu ennuyeux. Et 51,5% des fans de rock indépendant interrogés apprécieraient le BDSM. Côté position, les fans de rap adoreraient la levrette et les mélomanes de pop seraient plutôt missionnaires. Bon, ils ne le font pas forcément en même temps qu'ils écoutent de la musique, hein. Et selon un autre sondage réalisé par l'IFOP pour le magazine pornographique Hot Video, la fellation serait une pratique plus répandue chez les femmes de gauche que chez les femmes de droite. Mais alors, si l'on en croit ces sondages, que penser d'une femme de gauche qui n'aimerait ni la fellation ni l'anal alors qu'elle écoute de la country? Si en plus elle écoute du rap et qu'elle adore la levrette, on est perdu! On a tendance à beaucoup questionner, voire juger, les pratiques sexuelles des gens, et notamment des femmes.
Autour de moi, beaucoup s'empêchent de réaliser leurs envies par peur du slut-shaming, qui consiste à rabaisser ou culpabiliser une femme à cause de son comportement sexuel. J'ai rendez-vous pour prendre un café chez ma pote Lénie et j'en profite pour lui poser quelques questions, car je sais qu'elle s'est parfois fait juger sur le nombre de ses partenaires sexuels.
Alors, moi, j'ai été active sexuellement quand même assez jeune. J'ai eu quand même beaucoup de partenaires différents, à raison d'un différent par semaine, à partir de 15 ans. Il y a beaucoup de jugements lorsque tu as beaucoup de partenaires sexuels, de la part surtout des hommes. Tu sais, quand tu es jeune et que tu dis que tu es une femme et que tu couches avec plusieurs personnes, tout de suite, tu es une pute, alors qu'un mec, ça va être le mec hyper fort, etc. Donc, tu as toujours c'est un peu ce truc de jugement, de donner ton corps. Jusqu'à maintenant, lorsque je donne le nombre de partenaires que j'ai eu dans ma vie, il y a toujours des gens qui me jugent, que ce soit femme ou homme, d'ailleurs. Je sais que mes amis m'avaient beaucoup jugée lorsque j'avais fait un plan 1-3 avec une meuf. Moi, en tant que femme, d'avoir un rapport avec une autre femme, je sais que mes amis, femmes, m'avaient jugée par rapport à ça. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'étais en soirée, et tu avais la question avec combien de partenaires vous avez couché. Et donc, du coup, j'ai répondu 120. Et là, t'as toute la salle qui s'est arrêtée, qui m'a regardée, qui m'a jugée. Enfin, il n'y avait que des gens de 30, 35 ans. Et ils m'ont dit... Et c'est resté pendant 20 minutes, en boucle. 120, 120. Oh, non, mais... Et que des mecs.
Mais ils étaient peut-être admiratifs.
Ah non, 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 non. Il y en a un, je pense, qui n'était pas du tout admiratif.
Il a dit un truc particulier ou c'est sa tête qui t'a fait penser?
Bah, il m'a regardée avec la tête du mec dégoûté, quoi. Dégoûté de ma personne. Bah après, je couchais avec, donc c'est différent. Mais du coup, il s'est dit, merde, c'est moi le 120e, du coup. C'est peut-être ça.
Alors, pourquoi on juge autant les femmes sur leur sexualité et leur pratique? Pourquoi on est vu comme une fille facile quand on couche avec de nombreux partenaires, alors que les mecs qui enchaînent les coups d'un soir seraient des donjons? Tout à coup, ma pote Lénie dit un truc qui me surprend un peu.
Plus tu prends de l'âge, plus t'as de nouveaux objectifs. Déjà, tu te respectes un peu plus, parce que je pense que quand t'es plus jeune, tu comprends pas trop, t'essayes de te découvrir, tu fais plus d'expériences.
T'as l'impression que coucher avec plein de gens, c'est pas trop se respecter?
Non, alors après, peut-être que c'est parce que je parle trop à ma mère, parce que ma mère a cette idée que si tu donnes ton corps à plusieurs personnes, tu t'abîmes, d'une certaine manière. Donc, j'ai un peu pris ça au mot. Pour elle, plus tu le donnes, moins tu te respectes.
Et qu'est-ce que tu penses de ça, toi ?
Moi, je pense que c'est faux, parce que, de toute manière, si t'as envie de coucher avec une personne, c'est parce que c'est ton envie, et c'est tout. C'est pas, tu te détruis pas en allant coucher avec X ou Y personne.
Mais d'où vient cette idée bien ancrée que l'on ne se respecterait pas si l'on a beaucoup de partenaires ? Et comment ça se fait que même Lénie, qui est une meuf hyper décomplexée, puisse dire un truc comme ça ? Selon Lénie, ça lui viendrait de son éducation, de sa mère. Mais au-delà du cas de Lénie, est-on toutes et tous conditionnés pour penser comme ça ? Je me dis qu'au XXIe siècle, en Occident, c'est quand même bizarre que des femmes soient encore jugées quand elles ont des rapports sexuels avec qui elles veulent. Pour prendre un peu de recul, retournons 60 ans en arrière. À cette époque, faire du sexe, c'était une autre paire de manches. En 1960, ni la contraception ni l'IVG ne sont encore légales. Imaginez-vous, n'importe quel rapport pouvait mener à une grossesse. Et après, des honneurs sur la famille, avortements risqués, et un tas de conséquences dures à assumer pour la femme et pour sa famille. Clairement, aujourd'hui, depuis les lois qui ont légalisé la contraception puis l'avortement en 1967 et 1975, il y a un poids en moins sur les épaules des femmes. Mais alors pourquoi on considère toujours les femmes qui aiment le sexe comme des salopes ? Pourquoi on cherche toujours à juger et contrôler la sexualité des femmes ? Comme si cette menace s'était transmise de génération en génération, jusqu'à Lénie et jusqu'à nous. Et aujourd'hui, on a la pilule et compagnie, donc faudrait que les gens arrêtent de nous saouler. Merci par avance. Coraline Delebar, sexologue et psychologue, m'explique que c'est très récent que la sexualité ne soit plus seulement considérée comme un outil pour faire des bébés.
Je pense que la sexualité, elle a longtemps été définie et contenue au prisme de la reproduction. Ça fait pas très très longtemps hein, que la sexualité, elle est aussi perçue comme récréative, comme plaisir. D'ailleurs, la plupart des sexualités, des pratiques sexuelles qui sont réprimées moralement sont des pratiques qui sont non reproductives, avec un gaspillage potentiel de la semence et qui ferait qu'on serait dans une forme d'interdit, dans une sexualité interdite.
Et les femmes ne sont pas les seules à souffrir de cet interdit, de cette injonction à ne pas gaspiller le sperme des hommes. Oh, le Saint-Sperme. Si les hommes qui accumulent les conquêtes sont plutôt valorisés comparés aux femmes, ils peuvent aussi être victimes de stéréotypes en matière de sexe. Baptiste et Étienne, qu'on a entendus au tout début de l'épisode, reviennent sur leurs premières expérimentations de sexe anal en tant qu'hommes hétérosexuels.
Quand j'ai demandé pour la première fois, c'était mon ex, un truc anal, c'était vraiment juste, pour te dire, même pas une pénétration si on veut être exact, c'était juste un petit, un toucher très délicat autour. Et le simple fait de demander de s'approcher cette partie de mon anatomie, j'ai eu un, mais t'es dégueulasse, pourquoi je ferais pas un truc pareil? Et ça forcément, t'es là, bah, comment tu veux répondre à part, parce que moi j'aimerais bien.
La pénétration anale chez l'homme, effectivement, ça a été, je pense, souvent associé au plaisir homosexuel, ou en tout cas pratiqué uniquement par les homosexuels, chez les hommes, j'entends. Même moi, je me suis posé la question si j'étais pas bi ou homosexuel. Après, le contact avec les hommes, à titre personnel, ne m'attire pas.
C'est compliqué de se défaire de ces idées reçues parce qu'on est tous un petit peu formatés par un système de pensée, une façon de regarder le monde. On est toutes et tous régis par des scripts sociaux de ce qu'on doit être en tant qu'homme ou femme. Peut-être que ce qui peut être intéressant, c'est de réfléchir la position qu'on peut prendre, s'autoriser à penser d'autres façons d'être soi-même en dehors de ces attendus sociaux. La sexualité humaine, elle ne se résume pas qu'aux pratiques sexuelles. Parler de la sexualité humaine, c'est parler du genre, c'est parler du sexe, c'est parler de l'autodéfinition de soi, c'est parler des comportements, c'est parler des pratiques sexuelles. Et tous ces éléments-là, ils sont absolument pas dépendants les uns des autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pratiques spécifiques aux homosexuels ou aux hétérosexuels, par exemple. Et pour autant, dans les représentations, dans les normes de la sexualité, on imagine au contraire. Un homme qui serait hétérosexuel, donc attiré par des femmes, et qui aimerait explorer son plaisir anal, sa sexualité anale, reste un homme hétérosexuel qui est attiré par les femmes.
Notre orientation sexuelle est déterminée par le genre des personnes par qui l'on est attiré, et pas par nos pratiques. Alors comment assumer pleinement nos envies sexuelles malgré le regard des autres ? Étienne me raconte comment il a d'abord été curieux de certaines pratiques et comment il a découvert qu'il pouvait vivre des orgasmes intenses.
En fait, pour être honnête, je ne savais même pas qu'on pouvait avoir différents types d'orgasmes, les hommes. Donc au début, voilà, t'essaies, titiller, bon, ça marche pas, il faut que t'utilises des choses un peu plus... fait pour ça, on va dire. Des jouets faits pour ça. Et j'ai commencé effectivement à explorer mon corps tout seul, et cette partie de la zone anale, quoi, à essayer de la stimuler. La première fois que j'ai entendu parler de l'orgasme prostatique, c'est que j'étais en train de lire un blog de sexo, où ils expliquaient globalement qu'est-ce que c'était l'orgasme prostatique, comment essayer de l'atteindre, sans donner de méthode miracle. Et c'est surtout, ils avaient essayé de décrire un peu ce que ça faisait, et surtout les. Je me rappelle de certains commentaires. De gens qui disaient « Oui, moi je l'ai atteint, c'était extraordinaire, ça dure beaucoup plus longtemps, ça vient du fond du corps, quoi. » Donc, en fait, ouais, c'est excitant quand tu lis ça et t'as envie de l'avoir aussi, quoi.
Et puis, Étienne découvre aussi qu'il peut même partager ses nouveaux plaisirs avec ses partenaires.
Le pinging, c'est quand ta partenaire enfile un god ceinture, c'est-à-dire qu'elle va avoir un god entre les jambes qui est tenu, bien tenu par une ceinture, et elle va pouvoir... te pénétrer, donc tu vas te mettre généralement à quatre pattes devant elle et c'est elle qui va gérer la partie, on va dire. Le fait de pratiquer le pinging, en fait, je dirais pas que ça a changé radicalement ma vision de la sexualité, ça m'a juste donné en fait de nouvelles choses à faire, de nouvelles pratiques, et en fait ça a agrandi mes zones de plaisir et mes sources de jouissance, et rien que ça, c'est déjà beaucoup. Vraiment, j'avais envie de partager ça avec quelqu'un, parce que cette inversion des rôles aussi, le fait de ne plus contrôler l'acte, on va dire, entre guillemets, peut-être, allez, j'aimerais dire aussi d'être un peu dominé, même si je considère pas que je domine mon partenaire quand je la pénètre. Mais le fait, voilà, c'est de plus être, de plus tout contrôler, de plus être forcément celui qui met la cadence, on va dire, et de se faire un peu porter, oui, c'est quelque chose aussi que je pense que je voulais expérimenter et connaître.
Je trouve que ça fait du bien d'entendre de la bouche d'un garçon hétérosexuel qu'il s'éclate en assumant ses pratiques anales. Ça fait boumeuse quand je dis ça ou pas ? Et comme l'explique Coraline Delebar, nos envies évoluent grâce à nos partenaires, aux expériences que l'on vit.
La sexualité, elle se construit avec un répertoire de pratiques qui est propre à chaque individu, qui se construit individuellement, mais aussi en lien avec les partenaires qu'on rencontre. Je pourrais, par exemple, aimer une pratique particulière avec ce partenaire et ne pas du tout la désirer avec un autre partenaire. Donc c'est très important de garder ça en tête et de toujours se laisser la possibilité de choisir ce qu'on a envie de réaliser. Les pratiques sexuelles, elles bougent, elles évoluent, tout comme l'orientation sexuelle peut bouger, évoluer, tout comme l'identité aussi bouge, elle n'est pas forcément figée non plus pour toute la vie.
Et pour celles et ceux qui continuent à se poser des questions sur leurs pratiques, et si on se laissait aller sans se demander sans cesse pourquoi j'aime ça ou qu'est-ce que ça veut dire de moi ?
Les personnes qui se demandent pourquoi elles ont telle ou telle pratique, j'ai envie de leur dire pourquoi savoir pourquoi ? À quoi ça sert de savoir pourquoi ? Et moi, j'ai plutôt envie de les amener à se poser la question du comment. Comment je fais avec ça ? Comment je me positionne vis-à-vis de mes désirs ? Qu'est-ce que j'en fais ? Comment j'arrive à me sentir en paix, en tranquillité avec mes désirs ? Et de fait, aujourd'hui, je crois que le pourquoi n'a plus véritablement sa place. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, dans la réalité, on croise plein de façons d'être, plein de façons de désirer, et qu'aujourd'hui, le pourquoi n'a plus vraiment d'importance. J'ai plutôt envie d'aider les gens à savoir comment faire.
Savoir comment faire, ça peut passer par des discussions avec un ou une thérapeute sexologue, mais aussi avec des amis. Et en parler, ça peut aussi aider les autres à vivre une meilleure sexualité. En informant et en désacralisant certaines pratiques, en faisant tomber certains tabous. Comme Baptiste, qui me raconte cette expérience que sa copine et lui ont fantasmée pendant longtemps avant de se lancer.
Dans le donjon, c'était ma première expérience BDSM, ouais.
BDSM, ça veut dire bondage, domination, soumission, sadomasochisme. Bon, j'ai l'habitude de faire des trucs un peu maso, genre écrire à mon ex toxique ou ne pas dîner avant d'aller en soirée jusqu'au bout de la nuit. Mais je ne m'y connais pas trop en BDSM, donc je vais vous faire une description approximative. Parce que j'ai pas trop le temps, on va venir me livrer un matelas là. Alors, le donjon, c'est beaucoup dire, hein. On n'est pas obligé de louer le haut d'une tour d'un château fort. C'est plutôt un espace qui peut reprendre en effet des codes médiévaux, mais il y a aussi des donjons à la déco supra-moderne. Bref, entre l'appart de Christian Grey, le héros richissime de la trilogie Fifty Shades of Grey, et les cachots cachés au Moyen-Âge, il n'y a pas de grande différence. À l'intérieur, il y a plein de jeux, d'accessoires, de meubles de torture. De quoi s'amuser et inventer tout plein de scénarios basés sur des rapports de force, mais toujours consentis.
Typiquement dans ce donjon, je t'avoue avoir essayé, on a essayé la totale, hein. Moi je me suis retrouvé sur, je l'ai fait le coup de me retrouver sur un pilori en bois avec les quatre membres attachés et prendre des petits coups de fouet dans le dos, tu vois, histoire de voir ce que ça faisait. Et donc là pour le coup t'as plus le choix quoi, donc au début t'es assez léger et puis après tu te dis allez on essaye, et puis tu montes crescendo et puis tu te retrouves voilà sur cette espèce de structure complètement dingue parce qu'il y a que ça dans ce lieu et tu te dis allez et puis voilà, ça s'attache tranquille, ça prend un fouet tranquille et puis ça met des petits coups de fouet et puis tu te retrouves à te surprendre toi-même d'aimer ça en fait. Par la suite, on s'était acheté un petit kit que tu mets sous le lit là, pour pouvoir au moins se remettre dans des petites conditions de restriction, mais chez nous, à la maison. En fait, c'est des câbles en nylon que tu passes sous ton matelas. Et puis au bout, tu as des petites menottes en fait en mousse.
Tiens, mon nouveau matelas arrive. C'est finalement pas si éloigné du sujet.
J'ai 27 ans, j'ai encore plein de trucs à découvrir, je ne suis que padawan. Mais non, pas de déclic, vraiment si, bah, si ce n'est, oui, je te dis, 3 ans de relation avec une fille presque, qui est une fille un peu bisexuelle, entourée de queer et qui te remue un peu ta vision de la sexualité cis, hétéronormée, qui dit non, mais en fait, viens, on va voir les choses différemment.
Une simple rencontre peut nous faire découvrir de nouvelles pratiques, nous aider à voir les rapports sexuels sous un autre angle. Et je ne parle pas de l'angle qu'on fait avec des nouvelles positions du Kama Sutra. Non. Là, juste, on réalise qu'on s'était peut-être bridé sur nos pratiques sexuelles et nos envies. Et que finalement, tout est possible. Pour Étienne aussi, parler de sa sexualité, c'est la clé pour déconstruire les tabous, comme celui qui existe sur la pratique du pegging pour les hommes.
Si je continue toujours sur le pegging, il y en a qui ne voudront jamais essayer, qui se demandent pourquoi je fais ça, d'autres qui m'écoutent sans parler, et qui finissent par, au bout d'un moment, dire « Tu sais que t'es en train de me titiller là-dessus et que je vais peut-être en parler avec ma copine » ou ce genre de choses, ça m'est déjà arrivé.
Et vous, est-ce que vous avez des tabous autour de vos pratiques sexuelles? Et à la fin de cet épisode, est-ce que vous vous demandez encore si ce que vous faites sexuellement vous définit en tant que personne? Pas si facile de se débarrasser de cette croyance-là. Mais une chose est sûre, nos pratiques sexuelles ne disent rien de qui on est dans la vie. On peut être très introverti et avoir envie de tout tester au lit et inversement. Évidemment, on ne suit pas exactement les mêmes codes sociaux dans le lit conjugal, dans un donjon BDSM et en réunion marketing. Quoique, il y a certaines réunions, on sait qu'on se fait du mal en y allant, et pourtant on continue. Bon, on aura beau faire des sondages et des études, il n'y a pas une sexualité type par catégorie de personnes, et heureusement. On dit « l'habit ne fait pas le moine », mais moi je dirais « la sexualité ne fait pas le moine ». Remarque, c'est bizarre. Je suis Eddie Blanchard et vous venez d'écouter Émotion. J'ai tourné et écrit cet épisode. Le montage était de Mélodie Watté et la réalisation sonore de Clémence Relia. Vous avez entendu les voix de Léni, Étienne, Baptiste et Coraline Delebar. Vous pourrez retrouver toutes les références citées dans l'épisode sur notre site. Léna Coutreau est la productrice d'Émotion, accompagnée d'Elsa Berthaud. Dans le prochain épisode, retrouvez la journaliste Lola Berthet, qui s'intéressera aux émotions que l'on ressent quand on chante en chœur. Pourquoi on se sent aussi connectés les uns aux autres quand on chante tous ensemble, au karaoké, au stade ou en manif? Merci pour votre écoute et retrouvez Émotion un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts.
Bonjour, c'est Zoé de Louis et j'aimerais vous parler du podcast Symptômes, le podcast d'enquête médicale de RTL dans lequel des médecins se confient sur les cas les plus marquants de leur carrière. Chaque histoire dévoile toutes les phases émotionnelles, psychiques, de doute, d'angoisse, d'urgence, d'attente, mais aussi les étapes de recherche, l'écoute de soi et du patient. Bref, si vous cherchez un podcast, écoutez Symptômes, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. À très vite!
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. Their meditations range to fit your needs each day, from anxiety and stress, relaxation and focus, to building habits and taking care of your physical well-being. They even have expert-led talks on topics such as tips for overcoming stress and anxiety, handling grief, improving self-esteem, caring for relationships, and more. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.